Maximum, le mag.
On entame maintenant, c'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça notre séquence hebdomadaire. Christian Kino et Guy Vandenurgate nous présentent chaque dimanche des bonnes nouvelles dans le monde des entreprises de la région. Christian, je te laisse nous présenter tes invités.
Ah, très très grand merci Élise. Eh bien voilà, nous sommes le dimanche en matinée avec mon ami Guy Vandenurgate. C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça. Bonjour Guy.
Bonjour Christian.
En forme?
En forme.
Bien, on a la DEA Dame sur ma gauche qui est qualifiée pour la Coupe d'Europe. On a à droite la DEA avec vous Liège Basket, c'est pas encore vraiment tout à fait ça. Vous n'êtes pas un peu jaloux l'un de l'autre des résultats? Vous ne tenez pas coup de téléphone, je ne sais pas.
Je ne pense pas que Pierre est jaloux de nos résultats.
Pierre ne se moque pas trop ou je
non,
sais pas.
Non, moi, je ne suis pas jaloux, moi je suis admiratif, donc non. Bravo.
Merci. Alors voilà, moi je suis sûr que vous devez prendre votre CV, monsieur Pierre Cornia, on en aurait pour une après-midi. J'étais également assistant coach de l'équipe nationale dames, troisième au dernier championnat d'Europe, quatrième mondial. C'est un sacré investissement humain. Une recherche psychologique, mais on en reparlera tout à l'heure. Et la réflexion avec mon ami Guy Vandenurgate, qui a préparé sa liste de chiffres hors rapport à notre sujet, on voudrait vous savoir, est-ce qu'il y a une différence technique au niveau du terrain, au niveau de la hauteur de panier, simplement au niveau du ballon, entre l'équipe des dames et l'équipe d'hommes? Est-ce qu'il y a une différence?
La seule différence qui existe, c'est le ballon. Au niveau matériel, c'est le ballon, c'est le même terrain, c'est le même anneau, la même hauteur, c'est
le même temps de jeu, les
mêmes arrêts, c'est exactement les mêmes règles. Il n'y a aucune règle différente entre le basket féminin et le basket masculin, juste la taille du ballon. Un ballon 7 pour les hommes et un ballon 6 pour les dames.
Grosso modo, peut-être 100 grammes de différence, ce qui fait peut-être toute la différence au niveau des lancers. Et niveau, expliquez-nous un petit peu la technique.
Oui, la technique n'est pas différente, c'est la même technique au niveau du geste. En réalité, c'est le même sport. Sauf que une femme est moins athlétique et moins physiologiquement et moins costaude qu'un garçon, c'est logique. C'est moins grand, c'est moins puissant.
Oui. Elle est peut-être plus précise.
Elle est pas nécessairement plus précise, mais à ce niveau-là, au niveau de la précision, par exemple du shot, c'est pareil. Il n'y a pas grande différence. La seule chose qu'il va y avoir, c'est la distance. Par exemple, un homme peut shoter, à mon avis, beaucoup plus de précision à longue distance, très longue distance, qu'une joueuse. Et c'est tout à fait logique, c'est morphologique. Ça n'a rien au niveau des compétences ou de la qualité du geste. C'est juste une question de morphologie.
Bien, on ira dans les détails tout à l'heure. Christophe Pedjane, squat 9 à Liège, ça va, ça démarre? Comment ça démarre en fait?
Ça démarre. Deux premiers matchs joués avec les Belges. Deux belles prestations avec les Belges. Mais voilà, il nous manque encore un peu nos étrangers actuellement.
Mais justement, par rapport à l'équipe que vous aviez mis, que vous alliez aligner, c'est vraiment une si grosse défaite que ça en fait. C'est presque interpellant votre résultat.
Le premier match à Malines, on mène pendant 37 minutes. Oui. On a même 10 points d'avance à l'entrée du quatrième quart-temps. Et puis physiquement, on s'écroule. On tourne à 7 avec 3 jeunes et 5 Belges. Donc on manque de rotation. Là où Malines tourne un moment avec 6 étrangers et 10 à 12 gars qui rentrent sur le terrain. Donc à un moment, physiquement, on a un peu du mal. Ils mettent la pression. Au Bruxelles, c'est un peu différent. Là, on prend normalement 17 points dans la vue avant la mi-temps et on revient juste avant la mi-temps. Et puis on fait un jeu égal, on passe un peu devant, mais on n'a jamais vraiment été au Bruxelles en mesure de gagner les matchs. À Malines, oui.
Parfait. On va regarder tout ça en détail parce que juste après la pause musicale, ce seront les chiffres de notre ami Guy Vandenurgate, chiffres évidemment en rapport au basket. À tout à l'heure.
Maximum, le mag.
Deuxième séquence, c'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça. Christian Kino, Guy Vandenurgate, journaliste indépendant du Trends Tendance, est avec nous comme tous les dimanches. Il a pris ses chiffres et sur ma gauche, monsieur Pierre Cornia, coach des Panthers de Liège, des Yardam, et sur ma droite, Christophe Medjens, directeur général du VOU Basket Liège. Quoi de neuf, on va en parler tout à l'heure dans les détails. Il y aura peut-être même, et tendez bien l'oreille, une belle surprise fin de cette séquence. Mon cher Guy, les chiffres.
Oui, alors les chiffres, Christian. En fait, je me suis penché sur les sportifs les mieux payés en 2019. C'est une liste qui est établie par le magazine américain Forbes, qui établit chaque année la liste des 100 sportifs dans le monde les mieux payés. Alors, il y a une dizaine de sports représentés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le premier sport, c'est le basket. Il y a 35 des 100 sportifs les mieux payés au monde jouent au basket. Et c'est sans surprise, ils jouent évidemment aux États-Unis dans NBA. La fameuse NBA. Mais, plus intéressante, ils ne sont pas les premiers, ce n'est pas les mieux payés. Les trois sportifs les mieux payés, c'est la première fois que ça arrive depuis des années, c'est les trois footballeurs connus, qui sont Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar. Et les premiers basketteurs n'arrivent qu'en 8e, 9e et 10e position. Alors, je vais donner les noms. que connaissent nos amis, c'est LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant. Voilà, ça c'est les trois. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que le deuxième sport, il y a en tout 10 sports représentés, c'est le football américain et le troisième c'est le baseball. Donc basket, football américain et baseball, ça fait déjà à peu près les deux tiers du total. Et chose plus intéressante, c'est qu'il y a très peu, il y a 5 golfeurs, 5 boxeurs, 2 pilotes automobiles de Formule 1. Je sais que ça vous intéresse, c'est Hamilton et Vettel. Et alors, chose amusante, il y a un sport représenté par un représentant, c'est MMA. Donc vous voyez, hein, le mix, oui. Un match de sport. Oui. Et ça, c'est Conor McGregor. Et alors, il y a Virat Kohli, qui lui est un joueur de cricket, qui est quand même... il est bien classé, il est 58e, à 25 millions de dollars de rentrée. Et alors, chose amusante, il y a une seule femme sur les 100.
Ça, c'est bien dommage.
Ça, c'est bien. Donc, en fait, il y a une seule femme et c'est une joueuse de tennis. Voilà un indice.
Ah, bah, Vénus.
Non, c'est Serena.
Oui, ouais,
mais c'était
oui.
Pas loin.
Oui, non, je voulais dire Serena.
C'était
oui,
pas loin. Et chose amusante, parce que c'est les revenus des... Il faut savoir que c'est les revenus, à la fois le salaire et les... tout ce qui est la publicité. Hein.
Oui, qui comprend pour certains, à mon avis, la majeure partie
de
revenus.
Ah oui, parce qu'il y a des joueurs, il y a des noms surprenants. Par exemple, dans les joueurs de tennis, on retrouve, en dehors de Serena Williams, on retrouve évidemment Federer, Nadal et Djokovic. Et puis on retrouve, alors je ne connaissais pas du tout, j'avais entendu, mais Nishikori, qui est un Japonais, mais en fait, il n'a que 3 millions de revenus style les primes, mais il a 33 à 34 millions de revenus publicitaires au Japon. C'est une véritable star au Japon. Donc c'est aussi ça qui fait
l'univers
la différence.
L'univers du Japon lui suffit largement, évidemment.
Oui, oui. C'est comme Federer. Hein, c'est très intéressant. Federer, il a 93 millions de revenus. Il y a 86 millions de revenus qui sont des contrats publicitaires. Donc voilà.
Marque de montre, on ne citera pas, mais qu'on repère un peu partout, évidemment. Écoutez, moi j'ai une question à vous poser à tous les deux. On parle justement, Guy vient d'en parler, de fameux joueurs NBA. Est-ce qu'il y a une taille minimum à avoir pour être qualifié, pour essayer d'être là ou pas? On a entendu certaines choses, il faut au minimum 1m99, 98, 2m, je ne sais pas. Non, il n'y a pas de taille, il n'y a pas vraiment de taille au niveau de la sélection.
De la sélection, non. Non. Maintenant, c'est un fait certain que dans le sport que l'on pratique, la taille a énormément d'importance, le physique. Maintenant, il y a eu des joueurs en NBA qui étaient de petite taille, mais c'est vrai que c'est de moins en moins courant, mais c'est d'abord le talent aussi, hein, il ne faut pas l'oublier.
Quand on dit petite taille, c'est quelle taille?
Oui,
est-ce que je pourrais jouer, moi?
Peut-être.
74, voilà, comme ça on le sait.
Oui, mais ça devient de plus en plus rare, il faut être honnête, ça devient de plus en plus rare.
Connu, parce qu'à l'époque, il y avait...
Bogus.
Mais Corbalan, un meneur de jeu espagnol à une époque, faisait 1m75, je crois.
Oui, mais il y a même plus petit, hein, un joueur de NBA qui avait 1m65. Mais ça date d'il y a quand même quelques années.
Oui.
Alors, on a donné des chiffres qui évidemment font rêver sur le plan financier. Bon, évidemment, il y en a un sur combien qui vont passer. Là, vous, M. Pierre Cornia, si on pouvait donner un conseil à une jeune dame, une jeune femme qui aimerait bien se lancer en basket, parce que bon, d'abord elle cherche un sport assez dynamique, quels seraient les premiers conseils? Parce que bon, il y a quand même une fameuse préparation physique, psychologique peut-être aussi, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil en fait?
Moi, en tout cas, nous, ce qu'on donne à vous, Liège Panthers, c'est vrai qu'on cherche le haut niveau. On cherche le haut niveau dès leur plus jeune âge. Enfin, dans notre club, c'est à partir de 13-14 ans. On a des clubs partenaires qui ont des plus jeunes, donc ça on va les chercher dans nos clubs partenaires, mais elles viennent chez nous à partir de 13-14 ans. La première chose nous, qu'on leur dit, c'est prendre du plaisir. C'est pour moi l'essence même de la progression. Si elles viennent avec un objectif de... Allez, voilà, on a parlé de chiffres, être en NBA, en WNBA, je veux être en Division 1, je veux gagner de l'argent, je pense qu'elles se trompent. Et au départ, c'est venir pour travailler en s'amusant, prendre du plaisir de faire du sport, et c'est là que la progression va commencer à arriver. Parce qu'on est tellement exigeant avec elles, pas que chez nous, hein, dans les clubs, dans le sport actuel, il y a déjà parfois tellement de pression, souvent de la part des parents, parce que les médias font que c'est maintenant dans ce style-là.
À tort,
complètement à tort. Oui. Mais... nous, notre but, c'est justement d'un peu de dédramatiser ça, tout en leur inculquant cette envie de gagner, parce que c'est quand même la base aussi de notre sport en ce sens qu'on cherche l'élite. On n'est pas dans un basket d'amusement. On est là pour jouer en division 1, pour aller dans les équipes nationales. Donc, les joueuses qui viennent chez nous en particulier, ben, elles cherchent ça aussi. Elles sont demandeuses de ça. Donc, on doit trouver le bon équilibre entre le travail et l'exigence et le plaisir. Parce que sans plaisir, on ne progresse pas.
Comment vous trouvez la première sélection physique? Comment ça se passe? Quelle est la première épreuve pour savoir, à mon avis, on est tombé sur un bon élément ou pas?
Oh, parfois on se trompe, hein. Parfois on se trompe, heureusement. Hein, parfois oui. Mais c'est, moi je pense que c'est la manière de se déplacer sur le terrain. La niaque qu'on a, l'envie, avant quelque part le talent. Et c'est là où on voit comment elle se déplace, si elle plonge sur des ballons. Et ça, déjà avec ça, on peut déjà travailler. Et pour moi, l'entourage a aussi beaucoup d'importance.
Et les premiers supporters, évidemment.
Voilà, parce que ça peut quand même influencer vraiment énormément.
Est-ce que la réflexion est la même chez les hommes, ou alors on est beaucoup plus, bougez-vous, c'est moi, ou comment ça se passe?
Non, nous on a une dynamique un peu différente, c'est-à-dire qu'on est en train de tout recréer finalement quasiment en formation à Liège Basket, et on veut garder un axe basket-amusement. Donc de tout âge, du plus petit au plus grand, mais on veut, je veux dire, un peu copier, on va dire ça comme ça, habituellement, à juste titre, voilà, ce qui se fait juste à côté de chez nous. Et donc on est vraiment en train d'essayer, mais bon, ça prend du temps, ça se fait pas comme ça d'un claquement de doigts, mais ça prend du temps, Pierre le sait mieux que quiconque, mais en train d'essayer aussi d'avoir la branche élite pour amener des jeunes chez nous.
Bien, on ira dans les détails psychologiques de ce fameux sport qu'est le basket juste après la deuxième pause musicale. À tout à l'heure.
Maximan, le mag.
Troisième séquence, oui. C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça. On est sur le sport, on est sur le dynamique, forcément, vous êtes sur Maximum. C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça, avec à ma gauche Pierre Cornia, coach des Panthers de Liège d'Éan, et sur ma droite Christophe Mudgens, directeur général basket. Voilà, on avait des questions à poser et on pourrait tenir une après-midi tellement nous, évidemment, on est passionnés, évidemment. Est-ce que la combativité des femmes est différente? Est-ce qu'elles sont plus à l'attaque, à la gnaque que chez les hommes?
Personnellement, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que oui, que c'est... Mais c'est différent, parce que chez les hommes, c'est très physique aussi. Hein. C'est très physique, mais c'est de nouveau, comme je disais tout à l'heure, un peu dans la morphologie. On a l'impression que quand deux joueurs, veut dire physiquement très forts, ben, jouent l'un contre l'autre, ça reste... Voilà, c'est un physique contre un physique. Chez les joueuses, ben voilà, on a l'impression qu'elles sont plus hargneuses parce que c'est quand même d'apparence moins physique. Donc elles plongent plus sur des ballons, elles sont plus agressives dans le geste.
Sans rentrer dans les détails, vous avez un parcours pro au niveau basket, donc vous savez de quoi on parle. Évidemment, comme coach pour l'équipe D1, vous avez apparemment une arme redoutable, c'est votre moitié, si je comprends bien. Elle écoute, c'est sûr, donc je peux le dire.
Oui, tout à fait, oui. C'est parce que ça,
sur le terme psychologique,
voilà,
peut-être.
C'est ça, oui. Voilà. Oui, parce que mon épouse est une ancienne joueuse aussi internationale, qui a tout gagné ce qui existe en Belgique, et c'est quand même une approche féminine. On peut dire ce qu'on veut, nous sommes des hommes, on doit coacher des filles, on n'a pas quand même la même approche sur certaines choses. Et je vais dire que même la joueuse ne va pas nécessairement se confier aussi facilement à moi qu'à mon épouse. Et ça, c'est très important d'avoir cette relation qui peut avoir de confiance, qui peut aider, qui aide le groupe au niveau psychologique, ça c'est sûr et certain.
Donc le couple Cornia, c'est en permanence sur tous les terrains en fait.
Oui, vraiment, on peut le dire. Oui. Mais c'est une passion commune aussi, donc c'est facile. C'est une bonne chose, c'est une très bonne chose.
C'est
quand même 34 ans, donc...
C'est bien.
Voilà.
Alors justement, parce que moi je suis très intéressé par cela, mais je ne suis pas le seul, la prochaine date où on pourra voir à domicile les Panthers, ça va tomber quand en fait?
Donc on joue samedi prochain le 12 en championnat contre l'Arne, un match important pour nous, qui est une équipe à notre portée, mais on a surtout des dates vraiment où j'espère faire le plein ici à Liège, que ça va être la fête du basket féminin et du sport féminin en général, puisqu'on est en Eurocup. On joue le mercredi 23 octobre contre Fribourg, on joue le mercredi 6 novembre contre Charleville-Mézières, qui est le top français, et on joue le 4 décembre contre La Roche-sur-Yon, La Roche-Vendée, qui est aussi le top 5 français. Donc j'espère qu'on aura beaucoup de monde qui vont venir voir ce basket de haut niveau, parce que dans les autres équipes il y a vraiment des joueuses de très grande qualité européenne, et ça vaut la peine de se déplacer.
Alors toutes ces informations là on peut le retrouver sur le site
de vous, Liège Panthers.
D'accord, ouais. J'ai juste une question qu'on ne pose pas mais qu'on va quand même poser. Votre recherche financière au niveau des partenaires, est-ce qu'elle est plus complexe ou plus simple que pour vous les basket en fait.
Elle est plus complexe, ça reste du sport.
Pourquoi
féminin.
Parce que ça
reste du sport féminin, c'est d'accord. Moins médiatisé. Ça fait un plaisir fou d'être ici parce que on parle de oui. Sport féminin en général.
Oui. Oui.
C'est moins médiatisé, c'est pas la TV. C'est encore. Mais le sport féminin progresse. On a la chance d'avoir une équipe nationale qui est vraiment très performante et je pense que c'est important de pouvoir d'avoir cette vitrine et qu'on n'exploite pas encore assez. Ça bouge et puis on a fait des choses par le du fait qu'on est dans le basket féminin, on a dû trouver des remèdes, on a dû trouver des astuces pour attirer le regard sur nous et on l'a fait avec notre académie des études supérieures et de sport de haut niveau dont on parlera peut-être tout à l'heure.
Eh bien écoutez, comptez sur nous pour faire le relais et avec mon ami Guy Vanhoen Leurguet, on va en parler. Christophe Mugens, lui de son côté, le démarrage est un petit peu plus compliqué, n'est-ce pas? Mais on a bon espoir. On a grosso modo combien de matchs à domicile?
On aura,
15 au départ
Oui, on va avoir au départ 14 matchs à domicile, à coup sûr.
Alors là, la psychologie de ce côté-là, au niveau de la recherche, on a besoin de joueurs au niveau, entre guillemets, international. Est-ce que c'est réellement un plus? C'est nécessaire, bien sûr, par rapport à quoi une expérience de terrain. Mais il y a clair que vous avez aussi une recherche régionale. Dieu sait si...
On a fait recrutement sur deux axes. Un axe belge et le maximum possible liégeois en rapatriant certains joueurs type Jarosevic, Justak, Ojda et d'autres. Et un aspect, oui, un aspect étranger où ça reste indéniable que si on veut pouvoir à un moment... physiquement tenir le choix, qu'il nous faut quand même l'un ou l'autre joueur.
Parce que
étranger.
Notre préparation n'est pas encore suffisamment top.
Ah, je ne sais pas si c'est une question purement de préparation, mais y a des profils que l'on ne trouve pas comme fort magique.
Le staff du basket de Liège, ça représente combien de personnes, grosso modo?
Staff sportif, 4. Oui.
D'accord, et au niveau bénévole?
Et au niveau bénévole, un paquet.
Un
paquet, et c'est là que c'est essentiel, c'est eux les principaux.
Alors le prochain match important, on aura peut-être l'occasion de se revoir, ça tombera à quelle date?
À domicile?
Oui.
Ce sera le 20 octobre, le dimanche 20 octobre à 15h, contre Louvain en Coupe de Belgique.
Mon ami Guy Vanhoen Leurguet, une dernière réflexion, est allé voir ses baskets pour préparer peut-être une conversion sportive? Non, pas du tout?
Non, pas encore, mais j'irai bien voir les filles jouer.
Bon, bah écoutez,
parce que vous savez, je pense qu'il faut y aller.
Ça.
Ouais, non.
On va organiser ça. Et c'est
le
pas
truc,
une blague.
C'est vrai qu'elle joue bien.
Ce sera pas une blague. On va aller faire quelques belles photos. On va aller suivre ça d'un peu plus près. C'est une bonne chose. Mes amis, je suis très heureux de vous avoir reçu dans notre émission. C'est de bonnes nouvelles. Monsieur Pierre Cornia, un grand merci.
Merci à vous.
On sera bientôt avec vous. Je ne vous raconte pas des blagues. Monsieur Mugens, bon courage, mon cher Guy. À dimanche prochain. Sujet. Assez particulier, on va parler du digital, ça va être assez sympa, très diversifié, avec un jeune entrepreneur qui a démarré et qui vient de boîtes assez énormes. Est-ce qu'il est fou? On ne sait pas, on va regarder les chiffres du marché, comment ça se passe. Bien voilà, mesdames et messieurs, une excellente journée, un excellent dimanche, à dimanche prochain, aux alentours de 10h15, 10h20, dans ces eaux-là. À bientôt, au revoir.
Merci Christian Kino et Guy Vanhoen Leurguet qui nous présentaient leur séquence. C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça. Dans un instant, un peu de musique avant d'entamer la prochaine partie du MAG de ce dimanche. Dans quelques minutes, on vous fera le récap de l'actu de la semaine en province de Liège.